pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du partout dans la tour. Y'a du partout dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs, sur FPP 106.3 de 19h à 20h30. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 20 février 2026, et c'est une émission qui est pré-enregistrée. Donc L'Envolée, c'est quoi L'Envolée? C'est cette émission de radio et un journal qui, depuis maintenant 25 ans, relaie la parole des personnes enfermées et de leurs proches pour lutter contre toutes les formes d'enfermement, que ce soit les maisons d'arrêt, les centrales, les centres de rétention, les hôpitaux psychiatriques et les formes d'enfermement aussi qui s'étendent à l'extérieur. Et donc, dans cette émission donc pré-enregistrée, on va vous rediffuser une émission de tapage, donc elle est l'émission de radio des copains de la Sellette, dont on a déjà rediffusé plusieurs fois des émissions à cette antenne, et qui donc les copains de la Sellette d'habitude travaillent, observent la justice dans les salles d'audience et analysent donc la justice en train de se faire depuis les palais de justice, depuis les tribunaux. Et dans l'émission d'aujourd'hui, ils reçoivent donc Vanessa Codaccioni, qui est une universitaire qui travaille sur la répression des États. Et dans cette émission, ils vont aborder plus particulièrement la répression antiterroriste et notamment la façon dont l'antiterrorisme criminalise des intentions et donc comment ça a fait évoluer à la fois le renseignement, les enquêtes, la justice, voilà, vu que maintenant, dans le cadre de l'antiterrorisme, on peut être condamné pour des faits qu'on aurait eu l'intention de faire et non plus pour des faits comme c'est le cas, on va dire, un peu dans la justice plus classique. Et donc, avant de laisser la parole aux copains de la sellette, je vous redonne les contacts. Donc, pour nous écrire, c'est à l'envolée-fpp1 rue de la Solidarité 75019 Paris. Je ne vous donne pas le numéro du direct, parce que donc aujourd'hui, on n'est pas dans les studios. Mais pour nous appeler, sinon le reste de la semaine, c'est au 07 53 10 31 95. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à contact@l'envolée.net, nous retrouver sur notre site l'envolée.net et aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Et donc, si vous voulez retrouver aussi les autres podcasts de l'émission de La Sellette, donc Tapage, vous pouvez aller sur lasellette.org et il y a aussi toutes leurs chroniques d'audience et des textes d'analyse qui sont disponibles sur leur site. Donc voilà, on vous invite fortement à aller y faire un tour. Et ben, en attendant, je vous laisse avec donc cette rediffusion de Tapage sur comment les États répriment la justice antiterroriste. Et d'ici là, force, courage et détermination à toutes les personnes enfermées et à leurs proches. Et à la semaine prochaine, et il n'y a pas d'arrangement.
L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Antécédent judiciaire, vous avez déjà été
condamné.
C'est encore y compris le fonctionnement de la République.
Entre les parents de ces policiers.
Là, ils sont assermentés, monsieur.
Si c'est la dernière fois que vous passez devant un tribunal correctionnel, on se retrouve libre.
Bonjour, vous êtes sur Canal Sud 92.2 à Toulouse et vous écoutez Tapage, une émission sur les violences judiciaires. On a décidé là de faire une série de trois émissions sur la justice antiterroriste. Et pour introduire cette série, on va tout de suite écouter Vanessa Codaccioni nous présenter son dernier livre, Comment les États répriment, paru cette année aux éditions Divergence. Vanessa Codaccioni, elle est maîtresse de conférences à Paris 8 et ça fait 20 ans qu'elle travaille sur la justice pénale, la criminalité et la répression. Elle a publié beaucoup de livres sur le sujet, notamment sur la répression du Parti communiste français, sur la justice d'exception, et notamment sur la Cour de sûreté de l'État, sur la légitime défense ou encore sur les détecteurs de mensonges. C'est pas une liste exhaustive. On va donc vous passer l'enregistrement d'une rencontre qui a eu lieu à Terra Nova le 23 septembre dernier.
Bonjour à tout le monde. Comment les États répriment? J'ai une toute première question sur le cadre, les États. C'est juste pour préciser ça, donc il s'agit évidemment de pas de tous les États, il s'agit...
Les États, c'est les pays industrialisés, parce qu'en fait, moi, je travaille donc depuis... Ça fait 20 ans que je travaille sur la répression, en gros. J'ai commencé ma thèse en 2005 à la Sorbonne sur la répression anticommuniste et anticoloniale pendant la guerre froide, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Et j'ai toujours travaillé sur la France. Après la guerre d'Algérie, qu'est-ce qui se passe jusqu'à Mitterrand, l'antiterrorisme en France et tout. Et je me suis dit... Justement, pour ce bouquin chez Divergent, je me suis dit, il faut quand même... Parce que la question qu'on me posait souvent, c'est qu'est-ce qui se passe ailleurs? Est-ce que tu peux comparer avec, je sais pas moi, l'Italie, l'Angleterre, les États-Unis? Qu'est-ce que ça dit? Et en fait, j'ai essayé de prendre les pays industrialisés, alors l'Europe, les États-Unis, un peu le Canada, un peu l'Australie, parce que j'avais des choses en tête, mais... Et j'ai essayé de voir s'il y avait des points communs, des formes de répression communes et des temporalités communes dans la répression. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il y a des moments d'accélération de la répression en France, mais qu'on retrouve aussi ailleurs? Et effectivement, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait bien, dans tous les États industrialisés, des formes de répression similaires, dans des temporalités similaires.
Et tu as décidé d'aborder la question de la répression par le biais de ce que tu appelles des paradigmes, de trois paradigmes. Un paradigme politique, un paradigme sécuritaire et un paradigme antiterroriste. Du coup, la première question étant, qu'est-ce que c'est qu'un paradigme?
Un paradigme, c'est une notion que j'emprunte à un historien des sciences qui s'appelle Thomas Kuhn et qui a travaillé sur les révolutions scientifiques. Et il explique qu'un paradigme, c'est une manière de voir des problèmes et de trouver des solutions. Par exemple, la Terre est plate. Et pendant très longtemps, le paradigme dominant, c'est la Terre est plate. Et puis tout d'un coup, on commence à se poser des questions et à se dire peut-être que c'est pas la bonne réponse, en fait, et que la Terre est ronde. Et un paradigme, c'est donc une manière de voir le monde social, de poser des problèmes et surtout de poser des solutions. Autrement dit, hein, c'est par exemple, est-ce que la Terre est ronde? Oui, non. Et il va y avoir des enseignements, des expériences, des livres qui vont sortir, etc. Et en gros, un paradigme répressif, c'est un référentiel de répression, c'est-à-dire une manière de voir l'état social, le monde social. Et un paradigme, c'est une manière de définir qui commet des délits, qui doit être réprimé, par qui, comment et au nom de quoi. Qui, comment, par qui, au nom de quoi. C'est ça que va définir le paradigme. Par exemple, qui, les gilets jaunes, par qui, la police et la justice. Comment, par les comparutions immédiates, les mutilations, les personnes éborgnées, les personnes qui perdent des mains, voire la vie. Au nom de quoi? Au nom de la préservation de l'ordre public. Donc c'est ça un paradigme, hein, c'est une manière de voir le monde, de voir des cibles, de voir des problèmes et de proposer des solutions concrètes.
On va, si tu veux bien commencer, on va les décrire chacun des trois, donc en commençant par le paradigme politique. Ouais.
Alors le paradigme politique, c'est le paradigme qui va viser des ennemis politiques. Il a toujours existé, on pourrait reprendre sous la Grèce antique des multiformes de répression politique, on appellerait répression politique, on peut penser à la répression de Socrate par exemple, qui avait été accusé, condamné à mort pour trahison. Mais ce que j'ai appelé paradigme politique, c'est un paradigme répressif qui naît au moment de la construction de l'État moderne. Ce qui va primer à partir de la construction de l'État moderne, c'est-à-dire au Moyen-Âge, c'est des choses que vous connaissez, c'est la défense de l'État, la défense de la chose publique. Et donc, tout ce qui menace la chose publique, cette chose qui est en train de se construire, qui est l'État, va être réprimé. Et va être réprimé, donc à partir du Moyen-Âge, jusqu'à quasiment aujourd'hui, on pourra en rediscuter, et qui va être réprimé? Les ennemis politiques, les personnes en lutte. Alors, ça peut être des membres d'associations, ça peut être des membres de partis politiques, ça va être des gens en lutte, notamment des anticolonialistes ou des indépendantistes, tout ce qui va être perçu par le pouvoir comme dangereux politiquement, pour l'ordre politique, pour la chose de l'État. Par exemple, des gens qui s'en prennent à la police peuvent être considérés comme s'en prenant à l'État en s'en prenant à la police. Donc ça, c'est vraiment le premier paradigme, c'est on veut réprimer des ennemis politiques au nom de la protection de l'État. Et l'institution primordiale là-dedans, c'est le procès, c'est la justice. C'est-à-dire la manifestation visible du paradigme politique, c'est le procès. Et en particulier, le procès politique.
Et pas n'importe quelle justice, vu que tu as écrit un livre très intéressant sur la justice d'exception et sur la Cour de sûreté. Ouais. Créé par De Gaulle après la guerre d'Algérie. Ouais. Est-ce que tu peux...
Alors juste, dans le paradigme politique, pour voir qu'on n'y est plus du tout dedans, quand vous êtes réprimé dans le cadre du paradigme politique, vous êtes inculpé, arrêté, condamné, voire exécuté, pour atteinte à la sûreté de l'État. Ça dit bien, c'est ça le crime et le délit que vous commettez. Vous commettez une atteinte à la sûreté de l'État. Où De Gaulle avait changé, il avait mis atteinte à l'autorité de l'État. Ça dit quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'on met sur atteinte à la sûreté de l'État, atteinte à l'autorité de l'État? Des choses que vous connaissez très bien. Espionnage, sabotage, trahison, complot, intelligence avec l'ennemi. Donc si je vous dis par exemple intelligence à l'ennemi, vous pensez à la Seconde Guerre mondiale et à l'épuration où la plupart des collaborateurs ont été condamnés pour intelligence avec l'ennemi. Le complot, par exemple, l'une des grandes organisations qui a été réprimée pour complot, c'est l'organisation armée secrète, donc l'OAS, extrême droite, pro-Algérie française, et qui était inculpée pour atteinte à la sûreté de l'État, complot. C'est aussi, par exemple, le cas des communistes. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la répression anticommuniste, et ils étaient souvent inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État, mais dans le cadre de sabotage, notamment, ou de dégradation de monuments d'utilité publique. Aujourd'hui, il y a toujours ça, mais ce n'est plus des atteintes à la sûreté de l'État. On y reviendra peut-être. Et dans ce cadre-là, je vous l'ai dit, dans le paradigme politique, ce qui est important, c'est le procès politique. Je pourrais revenir là-dessus, mais je vous le dis tout de suite, le procès politique. C'est-à-dire où tout le monde sait que ce qui est en train de se dérouler dans le tribunal, c'est un procès politique. Les gens qui sont jugés sont considérés comme des ennemis politiques. L'accusation, c'est-à-dire le délit et le crime qu'ils ont commis, on dit qu'ils sont politiques. Au tribunal, les militants peuvent se défendre et faire de grandes déclarations politiques. Les avocats sont des avocats politiques qui font des grandes déclarations politiques. Et les témoins qui viennent vont faire des déclarations politiques. Et les juges sont OK avec ça. Aujourd'hui, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Et on pourra revenir là-dessus, mais... Et en tout cas, donc, le procès est politique, et il est d'autant plus politique que dans le paradigme politique, il y a une institution centrale qui est la justice d'exception. Alors, justice d'exception, c'est quoi? C'est une justice, comme son nom l'indique, exceptionnelle, différente de la justice ordinaire. Et cette justice, elle va s'incarner dans des tribunaux d'exception qui parcourent l'histoire de France depuis extrêmement longtemps. On pourrait remonter même avant le Moyen-Âge. Mais vous connaissez, à mon avis, tout un tas de listes de tribunaux d'exception. Par exemple, le tribunal révolutionnaire, créé par les révolutionnaires pendant la Révolution, et qui va mettre en place la terreur voulue par Robespierre et qui va condamner à mort, je crois, plus de 3000 personnes. Donc vous avez le tribunal révolutionnaire, on est en 1791, je crois. Et puis vous avez tout un tas de tribunaux d'exception sous Napoléon, puis au moment de la Première Guerre mondiale, vous avez des commissions militaires. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, vous avez énormément de tribunaux d'exception. Ça va être les cours martiales, ça va être le haut tribunal spécial. Enfin, vous avez tout un tas de tribunaux d'exception. Et puis, le grand moment des tribunaux d'exception, c'est la guerre d'Algérie, où vous avez 8-10 tribunaux d'exception qui visent à juger très rapidement et très sévèrement les indépendantistes algériennes et algériens. Donc, pour la petite histoire, un tribunal d'exception, ça permet quoi ? Ça permet de juger plus rapidement et plus sévèrement des ennemis politiques. Je vous donne un exemple. Dans un tribunal d'exception, vous êtes jugé notamment par des militaires de carrière. Il est interdit en droit français d'être jugé par des militaires. Si vous et moi, demain, on fait quelque chose, on ne sera pas jugé par des militaires. Un civil n'est pas jugé par un militaire. Dans les tribunaux d'exception, si. Les peines sont plus lourdes, vous pouvez être soumis à des gardes à vue plus longues. Il y a tout un tas de dispositifs très, très pénibles. Et pour la petite histoire qui est quand même très importante, à la fin de la guerre d'Algérie, le général de Gaulle crée un tribunal d'exception très spécial qui s'appelle la Cour de sûreté de l'État, qui est exactement comme les autres, sauf que la plupart des tribunaux d'exception dans le paradigme politique, ils durent un mois, trois mois, six mois grand maximum. On éradique la cible, on punit tout le monde, on emprisonne tout le monde, on condamne tout le monde et on le ferme. Le général de Gaulle, il a créé un tribunal d'exception qui a duré 18 ans. 18 ans. 63, 81. Et en fait, comment il fait pour le créer ? Ben, il dit, c'est pour juger l'extrême droite. L'OAS. Donc, il nous faut un truc sévère, extrêmement dur. Donc, même la gauche, elle disait, oh, pff, si c'est pour l'extrême droite, bon, c'est vrai que c'est pas très bien, mais enfin. Bon. Donc, finalement, les oppositions, elles n'ont pas été énormes. Sauf que, comme tout dispositif d'exception qui dure dans le temps, les cibles changent. Et à l'extrême droite va succéder très rapidement l'extrême gauche, mai 68. Puis les Mao. Puis les indépendantistes, Corse, Basque, Breton, Guadeloupéen, Martiniquais. Puis les révolutionnaires, les Gary, Action Directe, etc. Donc c'est le propre de la justice d'exception qui dure ou de l'exception qui dure, c'est de changer très rapidement de cible. C'est-à-dire de passer de l'extrême droite à l'extrême gauche ou inversement. Mais en général, bizarrement, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que d'habitude, on va légitimer un dispositif d'exception en disant « attention, c'est la grande menace contre la République, c'est l'extrême droite » et très rapidement, ça va s'abattre sur l'extrême gauche. Et je prends un autre exemple de ça qui n'est pas un tribunal d'exception, mais qui est quelque chose qui est très important et sur lequel je travaille en ce moment, qui est les lois de dissolution. On parle beaucoup des dissolutions des organisations, vous le savez, la Jeune Garde, la GAL, le CCIF qui a été horriblement dissous, Urgence Palestine, enfin vous connaissez bien ça. Loi de 36, pour lutter contre qui ? Les ligues fascistes, les ligues d'extrême droite. Et tout le monde est à peu près OK avec ça. 3 ans plus tard, qui est dissous le Parti communiste français. Extrême droite, extrême gauche. Puis 41, ça va être le Parti communiste algérien, etc. etc. Donc vous voyez, un dispositif d'exception va souvent être légitimé par une menace plutôt consensuelle. Et puis en fait, comme il dure dans le temps, c'est le piège, très rapidement, il va s'étendre. Autre exemple tout à fait classique, état d'urgence, après le Bataclan, 13 novembre 2015, on est à l'assaut, l'assaut n'est même pas fini dans le Bataclan que François Hollande déclare l'état d'urgence contre les terroristes islamistes qui peuvent passer à l'acte, avec tout un tas de mesures, 3 semaines après, qui est assigné en résidence en vertu de l'état d'urgence, les militants écologistes. Une cible, une mesure d'exception, très rapidement une autre cible. Donc la justice d'exception, c'est une justice dérogatoire, beaucoup plus sévère, et qui a la particularité, normalement, de ne pas durer dans le temps, dans le cadre du paradigme politique.
Et la Cour de sûreté de l'État a aussi une autre particularité de ce que tu décris. Elle a un lien organique avec le pouvoir.
Ah oui, alors il faut savoir que les tribunaux d'exception, en général, c'est le bras armé du chef de l'État. C'est-à-dire c'est le président de la République ou le chef du gouvernement ou les ministres qui vont décider, en gros, qui essaient de décider des peines et des sanctions. Par exemple, je vous donne un seul exemple. Le général de Gaulle avait créé un tribunal pendant la guerre d'Algérie, juste à la fin, pour faire condamner à mort et exécuter des généraux de l'armée, de l'OAS. Et donc, il choisit le tribunal, il choisit le président du tribunal, tout est choisi. Sauf que ce qu'il n'avait pas calculé, c'est que le président du tribunal était militaire, il est aussi général, que les autres juges militaires étaient aussi des généraux d'armée et qu'ils avaient une grande admiration pour ce fameux général Salan, notamment que le général de Gaulle voulait condamner à mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le président de ce tribunal des sections s'est suicidé quelques temps avant, juste avant le procès. Et il y a eu un nouveau président qui était lui aussi général d'armée, qui avait lui aussi beaucoup d'admiration. Je vous passe les détails. Le général Salan n'a pas été condamné à mort, exécuté comme le voulait le général de Gaulle, qui a été absolument furieux. Si vous lisez les mémoires de Gaulle, il va vous dire c'est un scandale, une honte, etc. Parce qu'il avait tout prévu et tout calculé pour. Et puis, voilà, donc du coup, résultat, il a supprimé ce tribunal de rage. De Gaulle a dit ça sert à rien et il en a créé un autre. Voilà, donc c'est ça la particularité.
Non seulement il a créé cet autre tribunal.
Ah oui, pardon, et il choisit les magistrats qui siègent dedans. C'est-à-dire, dans la Cour de sûreté d'État, donc 63-81, la moitié des juges sont des juges politiques choisis par le pouvoir politique. Juges politiques, c'est-à-dire qui sont fidèles au pouvoir, hein, dont on sait qu'ils sont fidèles au pouvoir et au général de Gaulle, et puis ensuite à Pompidou, à Giscard, etc. Et la moitié sont des militaires, là aussi choisis par le général de Gaulle, Pompidou, Giscard. Donc les juges qui sont dans ce tribunal sont des juges choisis par le pouvoir et des juges clairement politiques. J'ai pas le temps de développer. Mais en gros, j'ai fait les dossiers de carrière de ces magistrats. Je suis allée aux archives de Fontainebleau et j'ai retrouvé leurs dossiers de carrière à ces magistrats qui vont dans des juridictions d'exception. Je vais très vite. Ce sont des mauvais juges. Ils ont des superbes mauvaises notes. Ils sont mal notés. Ils ont des scandales aux fesses. Alors, je dis aux fesses, c'est moche, mais c'est vrai. Ils ont plein de scandales. Il y en a qui ont acheté des fausses médailles de la résistance à la libération. Enfin, ils ont des maîtresses partout. Ça fait des scandales dans leur ville. Enfin, c'est une catastrophe. Mais attention. Comme ils sont passés par la Cour de sûreté de l'État et qu'ils ont rendu service à l'État, ils finissent en haut de la hiérarchie judiciaire. Et certaines finissent à la Cour de cassation. Alors que c'était des mauvais juges qui jamais n'auraient obtenu ces postes-là. Donc, il faut voir toujours, quand on regarde la répression, les intérêts des personnes. Et je finis juste sur le paradigme politique parce que je suis extrêmement longue, mais c'est très important. Il y avait vous l'avez vu, c'est la cata, le paradigme politique. Mais il y avait des avantages au paradigme politique. C'est que les personnes réprimées étaient considérées comme des ennemis politiques et pouvaient motiver politiquement ce qu'ils avaient fait ou ce qu'elles avaient fait. Autrement dit, elles pouvaient défendre le fait d'avoir agi, certes peut-être en dehors de la loi, mais politiquement. En disant « mon geste, il est idéologiquement et politiquement motivé », je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, c'était reconnu dans le prétoire, etc. Par ailleurs, quand vous étiez, c'est très important moi je trouve dans l'histoire ça, quand vous étiez inculpé de crimes et de délits politiques dans le cadre du paradigme politique, quand vous étiez en prison, vous étiez où? Dans des quartiers avec des politiques, et vous obtenez un statut spécial. Attention, la France comme les autres pays d'Europe et les pays industrialisés n'a jamais reconnu le statut de prisonnier politique, jamais. Refus total. Je vous renvoie à Thatcher qui a toujours refusé le statut de à peu près de prisonniers politiques pour les membres de l'IRA et qui a laissé mourir les membres de l'IRA qui ont fait une grève de la faim à mort parce qu'ils réclamaient le statut de prisonnier politique. Donc les États refusent ça. Mais en France, on a rangé un peu un statut de prisonnier politique. Et puis enfin, quelque chose d'important aussi, si vous étiez inculpé de crimes et de délits politiques, vous pouviez bénéficier, sauf quelques rares exceptions, d'une amnistie politique pour les faits que vous aviez commis au nom de vos idées, de vos convictions personnelles. Citez-moi la dernière amnistie politique en France. Je sais pas. Qui réclame des amnisties politiques pour les militantes et les militants en lutte aujourd'hui? Les gens qui sont réprimés? Personne, ou très peu. Donc il y a toute une forme de répression politique qui a disparu et avec elle, la répression s'est dépolitisée. Tout s'est dépolitisé. La prison, le procès, la parole militante, les incriminations, le système de détention... Les motivations, tout s'est dépolitisé. Et ça, voilà, ça s'est fermé à partir des années 70-80.
Ouais, comme tu le dis, le paradigme politique s'affaiblit à la fin des années 70 et des années 80. Et arrive à ce moment-là le paradigme sécuritaire.
Ah, voilà, pardon. Je disais, à partir des années 80 arrive le paradigme sécuritaire. Est-ce que, ben, d'une part, tu peux nous expliquer comment on passe de l'un à l'autre, quelles sont les raisons qui expliquent ce changement et nous décrire le paradigme sécuritaire?
Alors, le paradigme sécuritaire, c'est quasiment tout l'inverse du paradigme politique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de politique. le paradigme sécuritaire, ça renvoie à ce que Michel Foucault, le philosophe, dit, c'est-à-dire il dit que dans les années 70 et 80, on rentre dans une société de sécurité. C'est quoi la société de sécurité ? C'est que tout est analysé au prisme du pénal, au prisme de la répression ou au prisme du sécuritaire. C'est-à-dire que chaque sujet de société va être un problème de sécurité, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ça, c'est la première des choses. Dans le cadre de cette société de sécurité, il y a quelque chose que l'on va vouloir protéger absolument, c'est plus tant l'État, c'est la propriété privée. Et donc, par exemple, hein, toutes les atteintes aux biens, dégradations, vols, cambriolages, vont devenir au cœur du paradigme sécuritaire. Dans un contexte où la presse, les hommes politiques, les policiers, les préfets insistent sur l'explosion des vols, des cambriolages qui sont commis par des loubards, de la vermine, de la racaille, je cite les termes de l'époque, et donc des jeunes, des classes populaires, et souvent, parfois, souvent, ça dépend des petites de délits, des individus racisés. Ce qui fait que, dans ce moment de paradigme sécuritaire, il va y avoir une cible, le jeune homme des classes populaires, et en particulier le jeune homme racisé, ou l'étranger. Et à ce moment-là, dans ce moment-là, il va y avoir une explosion des formes de répression qui sont permises par deux facteurs. Un, on va donner de plus en plus de pouvoir à la police. Il va y avoir de plus en plus d'effectifs policiers qui vont procéder à des contrôles d'identité, par exemple, qui n'étaient pas du tout légaux, qui vont pouvoir arrêter, harceler les étrangers autour des, autour de leur centre, etc. Et puis, on va construire de nombreuses prisons. Voilà, donc on donne plus de pouvoir aux policiers, il y en a de plus en plus, on construit énormément de prisons. Par exemple, en Angleterre, hein, le ministre de la Justice ou de l'Intérieur dit « la prison, ça marche ». Autrement dit, c'est plus tant le procès qui compte, c'est la police, la prison. On va investir dans l'emprisonnement comme moyen de punir des délinquants et des criminels. Et par exemple, hein, c'est très important, mais on dit souvent que Margaret Thatcher a été une affreuse répressive. C'est vrai. Mais quand on travaille sur Tony Blair, qui arrive au début des années 90, on est effaré de la répression sous Tony Blair, qui n'est pas du tout un gouvernement d'extrême droite, quoi.
Et on pourrait dire la même chose du Parti socialiste en France à la fin des années 90, qui fait un genre de mise à jour sécuritaire, ouais, avec ce colloque dont tu parlais la dernière fois, un colloque de 97, qui a ce nom qu'on aime bien, des villes sûres pour des citoyens libres.
Oui, et par exemple, je vais vous donner... Il y a une explosion des infractions, c'est-à-dire quelque chose que vous faisiez avant, eh ben, le lendemain, il est interdit. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication des actes, des pratiques et des discours qui sont interdits et pénalement répréhensibles et qui vont vous conduire à être réprimés, emprisonnés. C'est le cas, par exemple, de la drogue. Il y a un surinvestissement sur la législation contre la drogue dans les années 70. Vous avez ensuite un surinvestissement sur les délits routiers, années 80, années 90, années 2000, qui fournissent le gros des casiers judiciaires, le gros des comparutions immédiates, le gros des gens en prison. Vous avez un surinvestissement sécuritaire sur les vols, sur les cambriolages, sur les atteintes aux biens. Et par exemple, pour reprendre mon exemple de Tony Blair, sous Tony Blair, il y a eu plus de 400 nouveaux délits qui ont été créés. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, 400 nouveaux délits ? Ça veut dire que 400 nouvelles choses deviennent réprimables et peuvent vous envoyer en garde à vue, devant un juge et en prison. Et effectivement, le résultat, vous le connaissez et on en paie le prix aujourd'hui, c'est la surpopulation carcérale.
Et cette accumulation législative, ça vise des segments de population en particulier, notamment les personnes immigrées. Tu écris dans ton bouquin que depuis le début des années 80, il y a une loi sur l'immigration tous les 18 mois.
Oui, bien sûr.
Donc c'est vraiment considérable.
C'est considérable et quand on regarde les législations répressives, on voit qui est la cible. Qui est la cible ? Alors effectivement, les migrants, les migrantes, qui sont principalement la cible avec accompagné de tout un discours hein, tout à fait raciste, enfin tout ce qu'on peut trouver, sur les mariages blancs, les mariages gris, avec tout un tas de pratiques qui visent à encadrer des choses qu'on voit moins, qui sont moins répressives en termes de répression policière et judiciaire, mais qui visent évidemment à punir, à réprimer, à empêcher, à rejeter, à exclure. Et puis, les membres des classes populaires, les jeunes en particulier, les hommes, et, mais aussi, il faut le souligner, d'autres catégories de la population stigmatisée et minorisée. Je pense aux travailleurs et aux travailleuses du sexe. Je pense aux homosexuels qui sont largement réprimés. Je vous rappelle quand même que la dépénalisation de l'homosexualité en France, c'est 81 ou 82, 81 me semble-t-il. Donc vous avez toutes les personnes avec des, en situation de troubles psychologiques, les sans domicile fixe, enfin toute la population la plus marginalisée est déjà précarisée, qu'on va encore plus précariser par plus de répression. Donc vous avez un ensemble de groupes sociaux qui deviennent les cibles de ce paradigme sécuritaire et qui sont assez différentes en réalité du paradigme politique. Et l'idée, c'est que tout le monde soit traité comme ça. C'est-à-dire, n'importe qui doit rentrer dans le paradigme sécuritaire. Que vous soyez militante, militant ou non, vous devez être traité par le paradigme sécuritaire.
Et ça, c'est quelque part connecté à une idée de gauche du début des années 80. Tout le monde doit être traité de la même manière. Quand Mitterrand arrive au pouvoir dans les années 80, leur idée, c'est de supprimer toutes les législations d'exception et de dire, voilà, nous...
Mais en fait, on retrouve ce phénomène-là en France, mais on le retrouve aux États-Unis, on le retrouve en Italie, on le retrouve en Espagne, on le retrouve aux États-Unis. En réalité, ce qui se passe dans les années fin 70-80, c'est que les pays ne veulent plus entendre parler d'ennemis politiques. Il n'y a plus d'ennemis politiques dans tous ces pays-là. Il n'y a plus que des criminels et des délinquants, voire des fous et des terroristes. Mais plus d'ennemis politiques. Et effectivement, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça. Moi, l'une des hypothèses que j'émets quand même, c'est qu'il y a tellement de luttes dans les années 70-80 qu'il faut absolument réprimer ces luttes de manière beaucoup plus radicale qu'on le faisait avant et de manière beaucoup plus dépolitisée. C'est-à-dire, on veut en finir avec les révolutionnaires, avec les gauchistes, avec les indépendantistes, avec les anticolonialistes, avec les gens qui se battent aux États-Unis contre la guerre du Vietnam ou pour le mouvement pour les droits civiques en faveur de la population afro-américaine. Donc, on veut en finir avec toutes ces luttes-là et on va les réprimer par le paradigme sécuritaire, c'est-à-dire comme des criminels et des délinquants, par la police, parfois par les exécutions, par les examens psychiatriques, je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse, par l'emprisonnement de droit commun, etc., etc. Autrement dit, tout le monde doit rentrer dans ce moule absolument sécuritaire et plus rien n'est politique. Et ça, c'est très important. Et effectivement, en France, pour vous donner une date importante, hein, François Mitterrand, il arrive en 81 au pouvoir avec Robert Badinter, dont vous avez entendu parler. Et on dit toujours la grande mesure de Robert Badinter et François Mitterrand, c'est l'abolition de la peine de mort. C'est vrai. Mais il y a autre chose qui est très important, c'est que Mitterrand et Badinter avaient dit il faut que nous supprimions, nous, la gauche, tout ce qui est d'exception dans notre droit et dans notre justice. On va supprimer les lois d'exception, on va supprimer les délits d'exception et on va supprimer les tribunaux d'exception. Je vous donne un exemple de loi qui est supprimée par la gauche. Ça va vous dire quelque chose. C'est la loi anticasseur. Il existait en France une loi anticasseur qui avait été votée dans les années 70, précisément qui assimilait toute forme de casse dans les manifestations à du vandalisme. Et la spécificité, je vous le dis parce que c'est important, parce qu'il y en a qui veulent y revenir, hein. La spécificité de la loi anticasseur de 70, c'était de dire, vous êtes dans une manifestation, il y a de la casse, même si vous êtes à 3 km ou à 5 km du lieu d'où il y a la casse, vous payez. C'est ce qu'on appelle la responsabilité pénale collective. Et en fait, sous Macron, c'était comment il s'appelait là, le premier ministre, Édouard Philippe, qui veut être notre futur président de la République. Alors lui, il a plein d'idées. Il veut dissoudre le Black Bloc, c'est brillant. Il est brillantissime. Et sa deuxième idée, c'est de restaurer cette fameuse loi anticasseur et ce principe de responsabilité collective dans les manifestations. Donc vous voyez bien comment aussi ce moment-là, il est important parce qu'on veut ressortir plein d'idées de l'époque. Et donc Robert Badinter et François Mitterrand disent on supprime tout, ils suppriment les tribunaux d'exception. Je pense souvent à cette phrase de Gisèle Halimi qui disait par exemple « Un terroriste doit être traité comme un bandit. Tout le monde doit être traité de la même manière, tout le monde doit être traité à égalité. » C'est très beau. Égalité devant la loi et la justice, pas d'exception. C'est des vrais principes forts de gauche. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils ont égalisé toute forme de répression et par le plus dur, c'est-à-dire par le paradigme sécuritaire. Plus de délits politiques, plus d'amnistie politique. Enfin, tout ça, c'est délité progressivement en raison d'une bonne intention de gauche.
Et en même temps, l'exception, toute exception est supprimée en 1981, mais elle revient immédiatement par la fenêtre en 1986.
Oui, 86, vous avez une série d'attentats commis sur le sol français, notamment par le GIA algérien, je crois. Et là, il y a une cohabitation. Donc la droite revient au pouvoir par la cohabitation et va ressortir tout un tas de dispositifs d'exception qui ressemblent fort, en tout cas c'est mon hypothèse, à tout ce qui a été mis en place par le général de Gaulle pendant la guerre d'Algérie. Notamment cette fameuse cour de sûreté de l'État dont je vous ai parlé, vous savez, ce tribunal d'exception qui a duré 18 ans. Certes, Badinter et Mitterrand la suppriment. Mais que fait la droite ? Elle recrée quelque chose qui existe toujours, que vous connaissez certainement, qui s'appelle la cour d'assises spécialement composée, qui est en fait un tribunal d'exception, puisque c'est une cour d'assises sans jury. Bah, une cour d'assises sans jury, c'est plus une cour d'assises, c'est juste un tribunal d'exception. Et c'est ce tribunal-là qui a été mis en place pour juger des terroristes comme Georges Ibrahim Abdallah, avec le sort qu'on sait à Georges Ibrahim Abdallah, et puis ensuite tous les indépendantistes corses notamment, avec Colonna, et puis les membres d'Action Directe, etc. Donc si vous voulez, on supprime toute l'exception, mais la droite veut toujours recréer d'exceptions. Écoutez ce que disent les hommes et les femmes politiques de droite. Alors on ne sait plus très bien qui est de droite, parce que maintenant, on a l'impression que tout le monde est de droite, mais... Ils ont toujours plein d'idées. Alors on va recréer, écoutez bien, on va recréer des tribunaux d'exception, on va les envoyer à Cayenne, on va créer une prison en Guyane, ça se fait d'ailleurs. On va faire ceci, on va restaurer ça. Ils ont toujours plein d'idées, sauf qu'en fait ils ne les inventent pas, ils les ressortent de la guerre d'Algérie, ou ils les ressortent de moments très répressifs comme la Commune de Paris, où on a déporté des gens. Alors c'est ce qu'ils ont fait en Kanaky, puisqu'ils ont déporté les militants kanak et les dirigeants kanak en France. Hein. Mais vous voyez, donc il y a toujours cet imaginaire répressif qui est là. Et qu'on ressort chaque fois qu'il se passe quelque chose. Et le paradigme sécuritaire, c'est vraiment le moment où on dépolitise tout et où la répression s'intensifie considérablement.
Oui, parce que on dit que le paradigme politique s'est affaibli au début des années 80, mais en vérité, il ressurgit par plein de bouts sous forme de traces dans le paradigme antiterroriste.
Ben oui, je vous donne un exemple dont je vous ai déjà parlé. Exemple type du paradigme politique, l'état d'urgence. Un dispositif d'exception mis en place contre des ennemis politiques, des indépendantistes algériens et algériennes. État d'urgence créé en 1955 pour réprimer donc les indépendantistes. Il va être utilisé quelquefois en Nouvelle-Calédonie, sur des territoires français, mais très petits, etc. Attentat du Bataclan, 13 novembre 2015, je vous l'ai dit, l'assaut n'est pas fini, hop, l'état d'urgence. Donc il y a plein de petits bouts de choses comme ça qui étaient liés au paradigme politique qu'on va progressivement ressortir.
Peut-être qu'on peut dire un peu plus de mots sur le paradigme antiterroriste, quand est-ce qu'il s'installe et...
Alors ça vous connaissez mieux, je pense, parce que c'est plus près. Le troisième et dernier paradigme antiterroriste qui ne supprime pas le paradigme sécuritaire né dans les années 70. Il se rajoute. Donc il y a un paradigme politique du Moyen-Âge, en gros, à la fin des années 70, début des années 80, qui meurt progressivement. Le deuxième paradigme sécuritaire, années 70-80, sous lequel on vit toujours. La propriété privée, les atteintes aux biens, etc. Hein, les policiers, la protection d'ordre public. Les personnes aussi, on pourra y revenir si ça vous intéresse. Et puis, un dernier paradigme répressif qui va se superposer à celui-là, qui est le paradigme antiterroriste, qui naît après le 11 septembre 2001. Qui est véritablement une énorme rupture, énorme, en termes de répression. Et l'une des grandes caractéristiques de l'antiterrorisme dans tous les pays, mais ça vous le savez, et qu'on ne voyait pas avant, ou beaucoup moins, c'est le caractère préventif de l'antiterrorisme. Après, vous pouvez trouver des trucs sur Internet, des rapports aux États-Unis, comment le plus grand pays du monde, les plus grands renseignements n'ont pas vu l'attentat, comment est-ce possible, etc. On n'a pas été prévoyant, on n'a pas assez prévu. Et on va mettre le paquet sur le préventif et les services de renseignement, avec une multiplication du recrutement d'agents, etc. L'idée du paradigme antiterroriste, c'est évidemment de ne pas attendre qu'un attentat soit commis, mais d'arrêter les gens avant. Et donc, arrêter quelqu'un qui pourrait peut-être un jour commettre quelque chose. Donc c'est de la répression des intentions. Avec un affaiblissement considérable de la matérialité de la preuve. Des notes blanches qui riment à rien, qui sont signées par personne. Moi j'avais beaucoup travaillé sur un procès qui a eu lieu en France en 1998, c'est le procès Chalabi. Et c'est des gens qui sont pris dans une affaire d'association de malfaiteurs. Mais par exemple, il y avait quelqu'un qui était dans... Ces personnes qui avaient... Il y avait 138 personnes, je crois, qui étaient inculpées d'association de malfaiteurs en même temps. Une, elle avait un Coran. Oh wow. Ça, c'est vraiment un truc de malfaiteur, en courant. L'autre, il avait été dans un restaurant, il avait été vu avec quelqu'un. L'autre était allé à un enterrement où il y avait possiblement de potentiels terroristes. C'est ça l'association de malfaiteurs. C'est ça le paradigme antiterroriste. C'est créer des choses qui n'existent pas en vue de réprimer pour un futur bien peut-être. Et ça, on le retrouve évidemment partout. On le retrouve avec l'association de malfaiteurs que vous connaissez, dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis, on le retrouve très, très, très récemment aussi. Mais ça, c'est encore un autre point de l'antiterrorisme. C'est qu'il y a deux points. Un, on réprime de plus en plus avant l'acte lui-même. Donc, on réprime l'avant-acte. On réprime les intentions. Et la deuxième chose très importante du paradigme terroriste, c'est qu'on va non seulement réprimer l'acte terroriste, mais tout ce qu'il y a autour. L'avant, association de malfaiteurs, répression des intentions, et l'après, glorifier un attentat, l'apologie du terrorisme. On entend beaucoup parler d'apologie du terrorisme depuis le 7 octobre. On pourra en reparler si ça vous intéresse dans la discussion. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pareil. L'apologie du terrorisme, on n'est plus du tout aujourd'hui dans la glorification des auteurs d'attentats, dans la volonté qu'il y ait des morts, dans la provocation à commettre des actes terroristes. On est dans autre chose. Le délit, là encore, il devient de plus en plus flou pour pouvoir incriminer de plus en plus de gens. Et l'une des caractéristiques, et c'est la troisième, de l'antiterrorisme, c'est de toucher de plus en plus de monde. Vu qu'on est sur des délits de plus en plus flous, avec des définitions de plus en plus floues, vu qu'on est dans du préventif et en même temps on veut punir des gens qui soutiennent, qui apportent solidarité, soi-disant, eh bien, le filet pénal, comme on appelle en sociologie, s'élargit considérablement pour toucher des étudiants, des collégiens, des lycéens, des individus, qui n'ont absolument, évidemment, aucun lien avec des réseaux terroristes. C'est ça l'antiterrorisme, c'est évidemment la répression des auteurs d'attentats, mais en réalité les auteurs d'attentats aujourd'hui on les arrête quasiment plus parce qu'en plus ils ne veulent pas être arrêtés, donc voilà. Mais c'est vraiment la diffusion du spectre répressif pour toucher de plus en plus d'individus, des journalistes, des avocats, je connais des avocats qui ont été pris dans des trucs d'associations de malfaiteurs, des journalistes, des avocats, des intellectuels, des universitaires, des étudiants, des gens en lutte qui n'ont aucun lien avec des réseaux terroristes bien sûr. Et c'est ça le propre de l'antiterrorisme, c'est d'essayer de toucher le plus en plus de monde en réalité. Je ne sais pas si j'étais très claire.
Ça a l'air. Y a une autre infraction qui est régulièrement utilisée, qu'on voit souvent après les manifestations, c'est participation à un groupement en vue de commettre des violences. Ouais. C'est un classique, c'est-à-dire qu'on arrête quelqu'un qui n'a rien fait, qui va à une manifestation et qui dans son sac a rien du tout, a un masque, a des protections, a une bombe de peinture éventuellement. Et ça permet de condamner quelqu'un là pour des actes qu'il aurait éventuellement peut-être commis, dont on ne peut pas savoir.
Oui, alors la participation au groupement, ça participe exactement du même mouvement. C'est-à-dire avec cette volonté de réprimer quelque chose qui pourrait être commis, mais aussi d'empêcher. Ce qu'il faut savoir, qui est très important, c'est que la répression, l'un de mes grands thèmes, c'est de dire que la répression, bien sûr, elle a pour objectif de punir, mais qu'aujourd'hui, elle punit par empêchement. On veut empêcher les gens de. On veut empêcher les gens de parler, on veut empêcher les gens de lutter, on veut empêcher les gens de manifester, on veut empêcher les gens de se réunir, de s'organiser, d'être solidaires. Plein de choses. La participation à un groupement, ça participe tout à fait de ça. Soit vous êtes arrêté au cœur de la manif, on ouvre votre sac et vous avez de la peinture, des trucs de baudruche. Il y en a qui ont été arrêtés. Moi, j'ai travaillé sur 450 dossiers de gilets jaunes arrêtés à Paris. Et la plupart, c'était participation à un groupement tout seul ou participation à un groupement plus outrage, violence à dépositaire de l'autorité publique. On pourra parler des incriminations anti-flics. Si ça vous intéresse, parce que j'ai travaillé là-dessus. Mais la participation à un groupement, c'est aussi vous sortez du bus, vous êtes contrôlé à la sortie du bus ou à la sortie du train ou dans la rue ou avant la manif. Ah, participation à un groupement, pas de manif. Oh, on ne peut pas manifester. C'est ça le but. C'est que les gens ne manifestent pas. Ou les terroriser au point qu'ils ne manifestent plus. Faire peur. Combien de personnes ont eu peur après les gilets jaunes d'aller manifester? Combien de gens vous ont dit autour de vous? Moi, beaucoup. Ils m'ont dit, j'ai peur, j'ai pas envie de perdre une main, un doigt, un œil. C'est ça. Et on a des témoignages, même dans des manifestations écolo, où il y a des jeunes manifestants, des primo-manifestants et des primo-manifestantes qui ont été en garde à vue dans des conditions absolument atroces, indignes en tout cas, et qui ont peur. Alors l'idée de l'État et des gouvernements, des policiers, des préfets, c'est de déradicaliser. Sauf que, en réalité, ça marche pas trop, en fait. Hein. Moi, ce que j'observe plutôt depuis 20 ans, c'est que la répression, ça radicalise, si vous m'écoutez, plus que ça ne déradicalise, en réalité. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont peur, etc., qui vont arrêter, etc. Mais dans la plupart des cas, ça va radicaliser, ça va engendrer quelque chose de plus à l'engagement.
Et quand il s'agit d'empêcher des gens d'aller manifester, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au procès. Finalement, il suffit de les mettre en garde à vue. Exactement. On voit bien ces dernières manifestations, que ce soit le 10 ou le 18, il y a eu des dizaines et des dizaines. Je pense le 10, autour de 70 personnes qui ont été mises en garde à vue. Le 18, je ne sais pas combien. Mais sur ces dizaines et des dizaines de personnes, très peu sont envoyées en procès. Mais par contre, ils ont fait plusieurs jours de garde à vue et ils n'ont pas pu faire la manifestation. Et puis par ailleurs, dans les conditions de garde à vue qu'on connaît. Quoi.
C'est exactement ça. Et moi, c'est ce que j'ai observé aussi dans de nombreuses manifestations à Paris. Et notamment, j'y reviens aux Gilets jaunes, puisque les gardes à vue ont été massives. Je crois qu'un jour, ils ont arrêté 900 personnes, mais 600 sont relâchées ou 700. Enfin, vraiment, le but, c'est de prendre quelqu'un, l'empêcher de lutter, le maintenir, le contraindre, le terroriser, le réprimer par d'autres moyens. Les pressions psychologiques en garde à vue, l'isolement dans une cellule qui est sale, etc. Les propos parfois racistes, homophobes, sexistes, misogynes, tout ce que vous voulez. Les intimidations, privées de votre famille, etc., etc. Avec des menaces, parfois tu vas avoir un casier, etc. Et puis après, on les relâche. Voilà. Comme si de rien n'était.
Hors de la question de la répression des militants et militantes, sur la répression ordinaire, j'allais dire, ce contournement de la justice, il y a un exemple qui est particulièrement frappant, c'est la question des amendes forfaitaires délictuelles.
Ça, c'est tout à fait amendes forfaitaires délictuelles, c'est du paradigme antiterroriste, c'est du paradigme sécuritaire. L'amende forfaitaire, c'est une amende qui a été créée en 2016 dans le cadre de la sécurisation des villes et notamment des quartiers populaires ou des quartiers en voie de ghetto, pas ghetto, lapsus, de embourgeoisement, là, vous savez, gentrification, de gentrification. Et qu'est-ce que c'est l'amende forfaitaire? C'est quelque chose de très grave, hein. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est extrêmement grave. C'est des policiers qui vont dans des quartiers et qui disent, eh bien toi, tu ne portes pas le casque. Ils sont assis sur un scooter, mais ils n'ont pas le casque. Hop, pas de port de casque, amende, direct, sur le champ, à payer. Ou tu as fait quelque chose de répréhensible. C'est le policier qui décide immédiatement sur le champ d'une amende. Il se fait juge. Ces amendes sont très chères. Elles visent les jeunes des quartiers populaires. Évidemment, des jeunes racisés aussi la plupart du temps, ces amendes se cumulent entre elles et sont majorées progressivement si vous ne les payez pas. Ce qui produit des situations d'endettement dans des familles des classes populaires et notamment dans les familles monoparentales. C'est des sommes, là j'ai vu un reportage, un jeune de 18 ans, il avait 30 000 euros d'amende forfaitaire qui s'était cumulée, qu'évidemment personne ne pouvait payer. Donc ça c'est, alors il y a plusieurs choses qui m'intéressent ici. Un, on contourne la justice. Ça c'est aussi une caractéristique très forte du paradigme antiterroriste. Le juge finalement, c'est comme dans les juridictions d'exception, le juge normal, il est long, il est impartial, il prend du temps, etc. Et on va le remplacer, ce juge impartial, pénible, etc., bon, qui est très répressif aussi, mais enfin, il est plus pénible que les autres, par d'autres acteurs moins pénibles. Et plus obéissants, plus sûrs, plus fidèles, plus répressifs. Les préfets, les policiers, énorme pouvoir des policiers, donc l'administration, et puis évidemment les services de renseignement. Ce qui fait que ce qu'on voit dans le cadre du paradigme antiterroriste depuis 2001, c'est un progressif contournement de l'autorité judiciaire par d'autres acteurs, que ce soit les policiers, les préfets, donc l'administration ou les services de renseignement. Et l'amende forfaitaire, c'est ça. C'est le policier qui décide sur le champ que quelqu'un a commis quelque chose et il va le punir par une amende. C'est lui qui décide. Autre chose qui me semble très importante de vous dire, c'est que la répression, elle passe de plus en plus par l'argent. Ça a toujours été, moi quand je travaillais sur la répression anticommuniste, ils me disaient, on prenait des amendes et tout ça, et heureusement on avait plein de cagnottes au PC, on allait dans une cellule, on faisait passer un truc et je payais mon amende. Oui, mais aujourd'hui, évidemment, les amendes se multiplient, notamment dans le cas des manifestations. J'ai discuté récemment avec des soutiens à la Palestine et contre le massacre à Gaza, le génocide à Gaza, et qui disaient que dans les manifestations, on leur collait des amendes, mais énormes, et qui étaient de plus en plus fortes, etc. Et ça tue les mouvements et ça tue les cagnottes, les caisses, etc. Et c'est étouffer des mouvements par l'argent. C'est-à-dire que, ou des individus par l'argent, à force. Voilà. Donc, cette répression par l'argent, amende forfaitaire, amende dans les manifestations ou auprès de mouvements de solidarité, etc., elle me semble très importante.
Et sur l'amende forfaitaire délictuelle. Oui, voilà exactement ce que je voulais dire. J'aimerais ajouter une chose, c'est qu'au-delà de la répression par l'argent, délictuelle, délit, ça va sur le casier judiciaire. Et ça, c'est très, très grave aussi.
Bien sûr.
On parle à plein de moments de contamination répressive. Il y a une contamination répressive sur laquelle je voudrais qu'on revienne. C'est sur la lutte contre le terrorisme qui, là, dont les outils sont utilisés pour lutter contre le trafic. Cette fameuse loi narcotrafique, comme ils disent, dont on parle beaucoup ces derniers temps.
Alors oui, la loi narcotrafique, c'est un mélange, là aussi, paradigme sécuritaire et paradigme antiterroriste, avec un pouvoir énorme donné au préfet, qui peut décider, alors je ne sais plus tout ce qu'il peut faire, il peut geler des avoirs, je crois qu'il peut... qu'est-ce qu'il peut faire encore? Il peut interdire du séjour. Interdiction de séjour. Alors ça aussi, les interdictions de séjour, c'est aussi appliqué aux manifestants. Hein. Vous pouvez plus manifester. Hein. Voilà, bon. On connaît bien ça. Donc il y a un énorme pouvoir qui est donné au préfet, mais aussi dans un rôle préventif. C'est-à-dire, hein, quelqu'un qui est arrêté, il peut être considéré comme un futur grand dealer, et donc on va l'arrêter, l'inculper, etc. Donc on est dans du préventif, dans du fort répressif, et dans du contournement de l'autorité judiciaire, avec ce pouvoir énorme qui est donné au préfet. Le préfet est l'un des acteurs centraux aujourd'hui dans la répression, sauf qu'on n'en parle pas beaucoup. L'administration devient centrale. Et beaucoup de militantes et de militants, mais aussi d'individus ordinaires, ont à faire face aujourd'hui au préfet et à la répression administrative. Et c'est le cas avec les dissolutions des associations, hein, où c'est de la justice administrative, c'est l'administration qui vous dissout votre organisation, d'extrême gauche, anti-islamophobie, anti-raciste, etc. Et vous devez vous battre au Conseil d'État, avec un avocat du Conseil d'État, ça coûte extrêmement cher, enfin, on en revient sur l'argent. Et donc là, on passe sur autre chose. Vous voyez, on n'est plus du tout dans le procès politique, on est au Conseil d'État, quoi. On est vraiment dans quelque chose de très répressif et de très dépolitisé.
Tu expliques dans la conclusion de ton livre que les États répriment par la discrimination. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ?
Alors les États répriment par discrimination, c'est-à-dire qu'il y a toujours une opération de partage qui va se faire d'abord entre les honnêtes gens et les autres. Alors honnêtes gens, c'est une expression qui est très vieille, hein, qui date, je crois, de la Révolution française et qui visait à... séparer les bons Français et les bonnes Françaises des malotrus. Et c'est quelque chose qui revient énormément dans les années 70 au moment du paradigme sécuritaire pour opposer les bons et les bonnes Françaises à la vermine, à la racaille, aux Arabes, aux Nord-Africains, etc. Et d'ailleurs, Retailleau reprend ce terme récemment, j'ai vu ça, de honnêtes gens, il adore ça. Mais il a ses racines, hein, je pourrais vous parler des racines idéologiques de Retailleau que je commence un peu à percevoir. Et c'est pas joli joli, puisque c'est des racines d'extrême droite. Et pro-policière, évidemment, et pro-répression des minorités et des classes populaires. Je m'éloigne. Et en fait, donc, séparer les honnêtes gens des autres pour pouvoir réprimer ces autres, qui ne sont pas des honnêtes gens, qui sont donc des criminels et des délinquants. Mais attention, à l'intérieur de ces criminels et délinquants, vous avez aussi de la discrimination positive. C'est ce que Michel Foucault appelle la gestion différentielle des illégalismes. Autrement dit, il y a des crimes et des délits qu'on va moins punir que d'autres, ou qui vont paraître moins graves que d'autres, ou qui vont être réprimés de manière différente. C'est par exemple les classes populaires, c'est la criminalité en col blanc, c'est les crimes environnementaux, c'est tout un tas d'illégalismes, hein, qui sont moins réprimés ou moins punis. Et évidemment, ensuite, si la répression, elle est discriminatoire, c'est que, encore une fois, elle va s'appuyer sur, elle va réprimer en priorité des cibles déjà stigmatisés, déjà précarisés, déjà discriminés, tout ce que vous voulez. Donc c'est prendre ceux qui sont déjà réprimés par la société, parce que le monde social est dur, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce que, etc., etc., pour les réprimer davantage, parce qu'ils n'ont pas de toit, parce qu'ils n'ont pas de passeport, de carte d'identité, etc., pour les réprimer davantage. Et ce que je dis aussi, c'est que on veut empêcher... aussi toute forme de coalition
de solidarité.
De solidarité, que les groupes entre eux ne se regroupent pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on case, on met les gens dans des cases pour les séparer, pour empêcher qu'ils se solidarisent les uns des autres, pour éviter un vaste mouvement d'ampleur.
C'est sûr qu'on accepte d'autant mieux les choses quand on pense que ça ne nous concerne pas. Voilà. Enfin, quoi, c'est plutôt naïf si on a parlé là, tout autour de cette présentation de la latence de la répression à s'étendre, à élargir ses cibles au fur et à mesure.
Ça, c'est le propre de l'antiterrorisme et c'est le propre des services de renseignement ou de tout un tas de mesures que les gens acceptent facilement en se disant ça ne me concerne pas et ça ne me regarde pas. Alors, souvent, je dis c'est faux, ça regarde tout le monde. Ce n'est pas tout à fait vrai, en fait. C'est pas vraiment tout à fait vrai. Si vous êtes un homme blanc de 40 ans, chef d'entreprise, catholique, ça peut arriver. Attention, hein, une association de malfaiteurs peut très vite arriver, messieurs de 40 ans, PDG et en col blanc et catholique. Donc ça peut être pris dans une association de malfaiteurs d'extrême droite, on ne sait pas. Mais quand même, la probabilité est plus rare. Mais en réalité, effectivement, ce qu'on voit, c'est que la répression peut se retourner. Et je prends un exemple de ça, mais qui n'est pas sur le service de renseignement. Quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, je ne comprenais pas trop ce mouvement, donc je regardais beaucoup BFM TV, puisqu'il y avait beaucoup de Gilets jaunes qui étaient invités sur le plateau. Et les Gilets jaunes, au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils disaient « Ah, nous, on aime la police. » « Ah, la police, hein, on n'a pas de problème avec la police. » 3 semaines plus tard, ils disaient « On déteste la police. Hein. » Ce qui veut dire aussi que quand on est confronté à la répression et qu'on la voit pour de vrai, on sait. Mais c'est pour vous dire aussi qu'il y a cette forme parfois de naïveté un peu à se croire immunisé, protégé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des catégories de la population plus privilégiées et plus protégées que d'autres. Dans les manifestations, par exemple, on sait que les agriculteurs sont beaucoup plus ménagés dans le cadre du maintien de l'ordre que tout ce qui est considéré s'apparenter aux casseurs et aux black blocs. Hein, voilà. Donc,
Moi, j'ai une dernière question avant de vous laisser la parole si vous avez des questions. Cette histoire d'honnête gens, ça m'a fait penser aux voisins vigilants. Voilà, t'as un chapitre dans ton livre qui parle de la participation de la population.
Ça, c'est quelque chose de très important. Paradigme sécuritaire et paradigme antiterroriste. C'est la participation citoyenne à la répression. C'est-à-dire que, à partir des années 70, et je peux le montrer parce que j'ai des archives là-dessus, on voit des plaintes de préfets, de policiers, d'hommes politiques qui disent « La population n'aime pas assez sa police, ne fait pas assez confiance à la police et ne l'appelle pas assez. Il faut que les gens appellent la police. » C'est écrit noir sur blanc. « Il faut que les gens appellent plus le 17, etc. » Et ce qui se passe, c'est qu'à partir des années 80, il y a cette idée que, et c'est très fort comme idée, hein, c'est de dire en fait « Oui, effectivement, il y a des vols. » Il y a des cambriolages, il y a des agressions, il y a des viols. Mais c'est que la police ne peut pas tout. Et l'État ne peut pas tout. Il faut que les honnêtes gens prennent leur part et participent à leur propre sécurité. C'est une vision tout à fait libérale hein, de la répression et de la sécurité qui fait que chacun est entrepreneur de sa vie et doit tout diriger, régenter comme une entreprise, comme sa propre sécurité. Si vous lisez les discours de Margaret Thatcher, j'en cite quelques-uns dans le livre, elle dit « Quand on est malade, on va voir le médecin, mais on fait aussi attention. Quand il y a le feu, on appelle les pompiers, mais aussi on fait attention. Et bien, c'est pareil pour la sécurité et vous allez nous aider. » Et Margaret Thatcher dit « Vous allez nous aider en signalant les comportements suspects, c'est-à-dire en faisant de la délation. Vous allez nous aider en participant parfois au maintien de l'ordre. Vous allez nous aider en venant témoigner au cours du procès. Vous allez aider la police, etc. » Donc ça émerge énormément dans les pays anglo-saxons dans les années 80-90 avec ce qu'on appelle le Neighbor Watch, donc la surveillance de quartier, qui se développe aux États-Unis et en Angleterre. En Angleterre, c'est 4 à 10 millions de foyers dans les années 90 qui participent à des opérations de voisins vigilants, notamment dans les quartiers des classes moyennes. En bon sociologue, je peux vous le dire, mais je ne sais pas si je suis une bonne sociologue, mais enfin, ça coule de source. On participe aux voisins vigilants, évidemment, des gens qui ont quelque chose à protéger. Donc des membres des classes moyennes, des gens qui ont des bijoux chez eux, des tableaux, un peu d'argent, etc. Hein, les classes populaires participent pas aux voisins vigilants. Peut-être, hein, il y a un retournement et on peut observer des choses tellement il y a une imprégnation du discours sécuritaire. Mais en gros, voilà, c'est une certaine classe sociale qui va participer à ces histoires de voisins vigilants. Sauf que, après le 11 septembre 2001, je vous l'ai dit, aux États-Unis, il y a une grande réflexion, comment on n'a rien vu. Et l'une des conclusions de comment on n'a rien vu, c'est on n'a pas assez d'agents sur le terrain et on ne fait pas assez participer la population. La population pourrait nous aider à débusquer les terroristes. Et à partir de là, ça n'arrête plus. Vous avez des appels sans cesse à signaler, à dénoncer, à aller sur des plateformes, à cliquer pour signaler du contenu. C'est pour ça que je dis toujours, il faut faire attention quand on signale du contenu parce qu'on participe un peu à la répression. Et il y a tout un tas, une technologie de pouvoir, comme le dirait Foucault, qui se met en place pour faire avancer cette répression participative, comme je l'ai appelé, comme les plateformes de signalement en ligne. Vous connaissez Pharos ? Pharos, c'est la plateforme de signalement en ligne pour les faits de terrorisme en France. 1500 demandes avant Charlie Hebdo, 35 000 signalements après Charlie Hebdo. Et c'est les citoyennes et les citoyens qui vont signaler des gens pour apologie du terrorisme. Pendant l'état d'urgence, pourquoi des musulmanes et des musulmans ont été inquiétés ? Parce qu'ils ont été dénoncés par un ex-conjoint ou conjointe, par un voisin avec qui il y a un conflit, par un collègue de travail qui était jaloux, etc., etc. Et donc la délation est l'une des formes de la répression participative qui est très très importante depuis le 11 septembre 2001. Et on pourrait ajouter à ça la participation donc, par les voisins vigilants, donc la surveillance de quartier. Et puis tout un tas d'autres formes de répression comme le signalement en ligne. Une fois j'étais dans un parc et il y a un policier qui est venu me dire qu'il venait d'inventer une application téléphonique où je pouvais directement signaler quelque chose et chatter avec la police. Alors, il n'a pas eu de chance, il est tombé sur moi, mais ça peut marcher auprès de certaines personnes. Donc, délation, surveillance de quartier, et puis parfois, on demande plus. Je suis tombée, je le cite en conclusion de mon livre, sur une lettre, une annonce du préfet de je ne sais plus quelle région de France au moment des Gilets jaunes, et il dit « Ne donnez pas l'occasion aux Gilets jaunes de faire du bazar, enlevez les poubelles de chez vous, vérifiez l'identité des personnes qui rentrent dans votre immeuble. » Enfin, il demandait aux gens de faire des contrôles d'identité, en fait. Et moi, mon hypothèse, c'est que d'une part, c'est pour diviser la population entre ceux qui participent et ceux qui sont réprimés et qui ne vont jamais participer. Et d'autre part, c'est pour nous tenir. Parce que du moment que vous signalez, du moment que vous dénoncez, du moment que vous surveillez, du moment que vous faites ceci, est-ce que vous allez critiquer la police et la justice après ? Puisque vous-même, vous y avez participé. Donc l'idée, c'est de nous tenir par ce biais la répression participative. Voilà, en tout cas, c'est l'une de mes hypothèses très fortes. Il faut qu'on aime notre police et notre justice. Et l'un des moyens de nous la faire aimer, c'est de nous y faire participer. Voilà. Au nom de notre propre sécurité. Ou de celle de nos proches, de nos enfants. Enfin, c'est toujours le même discours.
Alors, est-ce que vous avez des questions ?
Bonsoir. Bonsoir, merci à toutes les deux. J'ai juste une question, je ne comprends pas très bien. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait le délit d'intention. Mais ce n'est pas un peu contradictoire avec le fait qu'on est a priori innocent ?
Alors, c'est une très bonne question. Et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai travaillé sur l'antiterrorisme. C'est qu'aujourd'hui est admis dans le droit une présomption de culpabilité dans le cadre de la lutte antiterroriste. C'est inscrit, hein, vous retrouverez, je donne la référence, même la Cour européenne des droits de l'homme dit que dans certains cas, on peut... Hein, c'est la Cour européenne des droits de l'homme ? Ou la Cour de justice européenne, enfin il y a une institution même, la CEDH, donc Cour européenne des droits de l'homme, dit, dans le cas du terrorisme, il peut y avoir une présomption de culpabilité. Vous vous rendez compte ? On passe de présomption d'innocence à présomption de culpabilité. Donc en gros, l'idée, mais c'est toute l'idée de l'antiterrorisme, c'est on vous réprime au cas où. Et ça quand même, c'est plus... En France, c'est quand même dans les années 90 qu'on commence à voir ça, bien avant le 11 septembre, où on arrête des centaines de gens, notamment des musulmanes et des musulmans, on les arrête, hein. on les inculpe d'associations de malfaiteurs et après on trie. Mais les gens ont quand même été arrêtés, on fait des gardes à vue, on fait des mois de prison, et après on trie. Au moment du procès, il n'y a plus rien. Mais on les a déjà réprimés. Donc on arrête les gens au nom d'une présomption de culpabilité et non d'innocence. C'est d'une extrême gravité. Donc ça rejoint, je suppose, ça répond à votre question, je suppose.
Juste pour ajouter une chose, c'est que même sans parler de terrorisme, par exemple, la participation à un groupement dans le cadre des manifestations, bah, en fait, il n'y a pas d'acte commis, donc comment... Mais de toute façon, la présomption d'innocence devant la justice, c'est quand même souvent un peu de la rigolade, malgré tout. Enfin, en comparution immédiate, c'est une chose terrible.
Disons que c'est très difficile de se défendre d'une intention qu'on vous prête.
Vous voyez, vous avez un exemple, on n'en a pas parlé, mais de la répression du 8 décembre, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont des militantes et des militants, c'est très grave. Ils ont été inculpés, condamnés pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. C'est d'une extrême gravité. C'est des militantes et des militants de gauche, disons, allons, on va aller vite, qui ont été condamnés pour donc association malfaiteurs et terroristes parce qu'on leur impute un futur complot et un futur attentat contre notamment les forces de l'ordre. Voilà. Donc ça, et ça, c'est des choses... Après, c'est très... Et donc, voilà, bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il est très difficile de se défendre d'une intention qu'on vous prête. Comment allez-vous vous défendre d'une intention qu'on vous prête ? Vous alliez faire ça ? Non. OK. Eh bien, vous êtes quand même réprimé. OK. C'est, enfin, comment se défend-on d'une intention ? Enfin, c'est vraiment très... Là, on touche vraiment au cœur d'une des plus grandes atteintes à toutes les libertés et garanties fondamentales.
Et de ce point de vue, vous parliez d'une contagion. Alors, du coup, c'est une espèce de double contagion de l'administration vers le judiciaire et du judiciaire vers l'administratif. Normalement, ces histoires de séparation des pouvoirs, etc., il n'y a qu'une autorité judiciaire qui peut vous priver de liberté, qui peut vous mettre en garde à vue, etc., etc. Et de plus en plus, et on le voit de manière flagrante avec la nouvelle loi narcotrafique, ce que tu disais tout à l'heure, le préfet a des prérogatives quasi d'un magistrat.
La liste des choses seules que peut faire un préfet seul, vous le retrouverez dans la loi, c'est ahurissant. Hein. Alors, mais c'est emprunté à l'antiterrorisme. Ça,
alors que son boulot, c'est de prévenir les atteintes à l'ordre public. Alors que normalement, voilà, le judiciaire, il est censé intervenir pour quelque chose qui a déjà été commis. Et du coup, il y a un autre mouvement, parce que tu parlais du 8-12, mais il y a Tarnac, enfin il y en a plein.
Tarnac, associé de malfaiteurs, mais pas terreau.
Qui est tombé.
Qui est tombé, hein.
Qui est tombé là. Mais ce qui a permis quand même, pendant des années, de mettre les moyens
judiciaires,
antiterroristes, pour écouter tout le monde, etc. Ah, ça a été fait abondamment. En fait, le juge judiciaire se comporte de plus en plus, lui aussi, avec des objectifs de prévention de troubles à l'ordre public. Et là, il y a un projet de loi d'Armanin sur... projet de loi sûr. Je ne sais pas ce qui va devenir ce projet de loi. Mais une des, ce qui est demandé, c'est que le juge des libertés de la détention, pour placer quelqu'un en détention provisoire pour un délit, pourrait invoquer le risque de trouble à l'ordre public. Voilà. Donc on a une vraie contagion de cette notion de l'ordre public dans le judiciaire.
Ouais, et j'ai quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que deviennent les gens en lutte dans les paradigmes sécuritaires et antiterroristes ? Bah, les gens en lutte, c'est soit des criminels, soit des délinquants, soit des terroristes. C'est des éco-terroristes, par exemple. C'est des terroristes du Hamas. C'est tout ce qu'on peut entendre imaginer. Donc, ça va passer par... Dans le cas de l'assimilation du militantisme au terrorisme, ça va passer par des étiquettes. Hein, terroristes, éco-terroristes, etc. Mais derrière, il faut voir que ça a des effets. Surveillance antiterroriste, géolocalisation, écoute, filature, infiltration, inculpation pour apologie du terrorisme ou association de malfaiteurs. Et puis, après, des procès possiblement terreaux. Comme les camarades du 8 décembre.
Et ça a des effets après d'être inscrit sur...
Ah oui, le FIJET. Alors, vous savez qu'il y a un autre mouvement dont on n'a pas parlé. Donc, on réprime l'avant, mais on vous tient après. Quand vous êtes condamné pour terrorisme, vous êtes inscrit au FIJET, qui est un fichier qui inscrit toutes les personnes qui ont été condamnées pour terrorisme et qui vous tient. C'est-à-dire que, par exemple, vous devez aller au commissariat, dire si vous déménagez. Vous êtes tenu encore par la répression alors que vous avez purgé votre peine. Ce qui est un mouvement qu'on retrouve aussi avec la rétention de sûreté. Vous avez purgé votre peine, mais on peut décider encore de vous retenir en prison, enfin de vous mettre en rétention de sûreté. Donc, ça aussi, on est complètement contraire à toutes les libertés et garanties fondamentales. Vous avez purgé votre peine, normalement, c'est fini. Non, on vous tient par la police, par la rétention, par les fichiers. Et vous savez, donc, Codazioni, c'est pas italien, c'est corse, donc je connais bien un peu la répression... des Corses, et les Corses se sont énormément battus contre ce fichier, le FIJET, là, le fichier des gens inscrits au terrorisme, et Darmanin a annoncé il y a quelques mois, quand il était encore ministre de l'Intérieur, que les Corses allaient sortir du FIJET. Alors, les Corses sortent du FIJET, mais pas les autres. Alors, vous voyez, là, c'est bien, tant mieux pour les Corses, hein, je suis ravie, moi, dès qu'il y a un truc moins de répression, je suis ravie, mais il faut que ça s'applique à tout le monde, en fait, donc il faut supprimer le FIJET. Enfin, vous voyez.
Oui, bonsoir. Ben, merci beaucoup en tout cas. Très éclairant. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais j'en profite puisque je suis là. Du coup, j'étais en Nouvelle-Calédonie. Enfin, là, je suis revenue pour mes études pendant les émeutes. Et quand même bien éclairant tout ce que vous indiquez sur ces différents paradigmes. Je vois aujourd'hui, ça me fait penser aussi à ces effets pervers dans lesquels on a mis la population qui s'est saisie en mélisse, en fait, pendant l'état d'urgence. Les barrages des quartiers sud qui ont pu rester jusqu'à 8 à 10 mois, j'ai pas les chiffres, tandis que les autres avaient été enlevés. Enfin, voilà, tout ce que vous avez décrit, le rapport à la propriété aussi. Parce que finalement, on défend quoi ? On défend sa propriété dans un fantasme de méritocratie à la française, dans une ancienne colonie. Enfin, voilà, il y a tout ça qui se mélange. Et enfin, voilà, je voulais vous remercier. Et je pense que enfin, c'est aussi un message à tout le monde. Il faut vraiment se pencher aussi sur ce qui se passe là-bas. Je fais pas mal de conférences depuis que je suis là. Je sais bien que la Calédonie, c'est loin. Moi aussi, je ne connaissais pas avant. Et en tout cas, c'est ce qui s'y déroule. Et à son paroxysme, un peu là, contextuellement, dans cette temporalité-là, en tout cas, je trouve que la Calédonie rassemble et ressort du passé, justement, là, des manières de faire assez atroces. Mais en tout cas, merci beaucoup.
Oui, oui, il y a des choses. Et il y a peut-être des choses qui vont sortir, d'ailleurs, sur la nouvelle... la Kanaky. Bon, en tout cas, ce que je rebondis sur ce que vous dites, sur l'importance de la propriété privée des milices. Une histoire totalement méconnue, alors, sur laquelle j'ai travaillé, qui est l'histoire de la légitime défense en France. Vous savez ce que c'est, la légitime défense ? Quelqu'un vous agresse, vous le poussez, il tombe par terre, il se cogne la tête, il meurt. Vous êtes en état de légitime défense. Dans les années 70 et 80, vous avez tout un groupement de populations, des associations, des policiers, des juges, le Front National, qui vont politiser la légitime défense en disant « La légitime défense, c'est bien des personnes, ok, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir être en état de légitime défense pour protéger son bien. » C'est-à-dire que quelqu'un qui veut me cambrioler, je peux l'abattre. Et je peux même l'abattre préventivement. Et je vous raconte juste une histoire. On peut tuer les gens préventivement. Ah ben bien sûr. Ou alors en tout cas avant l'état de légitime défense. Vous allez voir. C'est une histoire de dingue. En 76, vous avez un garagiste qui va piéger une radio de sa maison avec un explosif. Et il la met dans l'entrée. Des cambrioleurs rentrent dans la maison, prennent la radio qui explose. L'un d'eux meurt. L'autre perd un œil, est éventré, enfin, légitime défense. Il n'y avait personne dans la maison, personne n'était là. Ils ont plaidé la légitime défense préventive des biens. Donc, légitime défense préventive, donc voilà, en prévention, vous avez prévu de tuer quelqu'un, et puis surtout, légitime défense des biens. Et ça, c'est quelque chose qui est massif. C'est la défense de la propriété par la violence, qu'on voit dans les années 70-80 en France, avec des commerçants, des artisans qui tuent des Arabes, des Noirs, des membres des classes populaires, parce que, soi-disant, ils voulaient leur voler leurs biens ou leur cambrioler leur maison. Vous avez dans les années 70 et 80 des milices armées qui patrouillent les rues, si bien que les préfets sont obligés de dire « Non mais attendez, les milices de combat, c'est interdit, etc. » Ils sont obligés de lever le pied. Mais c'est des choses qu'on retrouve aux États-Unis avec la loi... comment elle s'appelle cette loi ? Ground, je suis fatiguée, excusez-moi. Stay your ground law, ou un truc comme ça. Ou quelqu'un met un pied dans votre jardin, vous pouvez l'abattre. Et ça, vous avez beaucoup de groupes qui voudraient l'importer en France. Voilà. Et par exemple, en Angleterre, ils ont aussi dit que la légitime défense des biens était légitime. Et quelqu'un comme Ciotti, par exemple, avec Estrosi, est-ce que vous vous rappelez l'affaire du bijoutier de Nice ? C'était en 2006, un bijoutier, il y a quelqu'un qui rentre et qui vole des bijoux et il part en scooter. Le bijoutier prend un fusil, sort de la boutique et leur tire dans le dos et il abat l'une des personnes en scooter ou en moto. Il n'y a absolument pas légitime défense. Hein. Déjà, on ne tire pas pour un vol sur quelqu'un et de deux, on ne tire pas dans le dos. C'est la base de la légitime défense. Une fois que la personne est partie et vous tourne le dos, il n'y a plus légitime défense. Bon. Il y a eu toute une mobilisation énorme pour ce bijoutier, ce qui est très intéressant, qui dit des choses sur l'attachement à la propriété privée, la manière dont on traite les membres des classes populaires, etc. Bon, ça dit plein de choses. Mais surtout, Ciotti et Estrosi ont voulu faire voter une loi qui autorise ça. C'est-à-dire qui autorise les artisans, les commerçants, les bijoutiers à tuer pour se défendre. Voilà, je referme la parenthèse, mais ça dit beaucoup de choses sur la centralité de la propriété privée dans notre société.
J'allais la rouvrir juste brièvement pour dire, là, on parle de la légitime défense citoyenne. On peut aussi parler de la légitime défense policière. Tu évoques le fait d'avoir le droit de tirer dans le dos. Bon.
La légitime défense policière, exemple type de dispositif d'exception qui ne s'arrête jamais. La légitime défense policière, c'est la même que la nôtre. Les policiers, ils ont officiellement le même droit de se défendre que nous. Ils peuvent tirer simultanément à une menace... simultanément, donc jamais avant et jamais après, quelqu'un qui Un policier n'a pas le droit d'abattre quelqu'un qui lui tourne le dos, par exemple. De manière proportionnelle, bon, ça pour les policiers c'est fichu, proportionnelle c'est la proportionnalité des armes. C'est-à-dire que normalement on ne peut pas tirer sur quelqu'un qui est désarmé, par exemple. Simultanéité, proportionnalité et puis réalité de la menace. Il faut que ça soit, qu'il y ait vraiment une menace, quoi. Bon. Par moment dans l'histoire, on a étendu ces droits policiers. On leur a dit, vous pouvez tirer plus souvent, notamment tirer dans le dos, par exemple. C'est le cas dans deux périodes historiques, Vichy et la guerre d'Algérie. Dans ces deux périodes-là, le pouvoir policier de tir, le pouvoir de mort policier est étendu, est élargi. Et après, on referme. On dit, ah ben non, vous tirez plus. Alors, inutile de vous dire que les policiers font semblant, oui, ils croient vraiment qu'ils ne sont pas au courant des nouvelles règles. Donc, ils continuent à faire ce qu'ils faisaient pendant la guerre d'Algérie ou pendant Vichy. Les policiers, depuis des années, réclament une extension de la légitime défense qu'ils ont obtenue avec Hollande. Ils ont obtenu une extension de la légitime défense policière sous Hollande par deux lois qui leur permet notamment, penser à Naël, une pensée pour Naël, d'arrêter un véhicule qui ne s'arrête pas, soi-disant qui ne répond pas aux ordres d'arrestation, ou pour arrêter quelqu'un qui est dans un périple meurtrier. Depuis 2017, les policiers peuvent porter leur arme hors service. Depuis 2-3 ans, ils peuvent aussi rentrer dans des établissements publics, écoles, hôpitaux, tout ce que vous voulez, sans l'autorisation du directeur ou du responsable de l'établissement public. Ce qui était absolument obligatoire. Donc, en fait, ils peuvent rentrer quand ils veulent. Et bon, c'est absolument dramatique. Et là, on est dans le cadre, effectivement, de l'antiterrorisme qui donne de plus en plus un pouvoir de mort étendu aux policiers et qui leur donne de plus en plus de pouvoir et qui étend des dispositifs d'exception pour les rendre permanents. Voilà. L'extension de la légitime défense policière, elle était avant très limitée sur une guerre, un temps. Et maintenant, c'est tout le temps.
Seulement, ils ont le droit maintenant de porter leur arme hors service dans certaines circonstances. Mais il me semblait aussi qu'ils avaient la gratuité à la SNCF s'ils portent leur arme au titre de la participation au maintien de l'ordre dans le train.
Brûle raison, brûle dans la joie. D'enfermer tous les pauvres et leur guérison qui s'étend. On va entasser tout ça dans des dépôts de mendicité. Enregistrer les noms de ceux qu'on va abandonner. Les ranger un par un dans le jardin des espèces. De quelle race est ce monstre à admirer l'animal? Brûle raison, brûle dans la joie. Brûle la prison, brûle autour de moi. Voici que vient l'été. Tout ce peuple marginal et déviant. Et comment faire passer l'horreur pour un traitement? Comment désormais l'enchaîner différemment? Assez honte, assez faute, à de nouveaux châtiments. Peut-on le rendre utile, au moins le rendre tendre? Peut-il coûter moins cher? Peut-on le choisir à la mer? Brûle raison, brûle temps.
C'était le groupe Justin avec Brûle, Raison, Brûle. Vous êtes toujours à l'écoute de Tapage sur Canal Sud 92.2 à Toulouse. Et on retrouve Vanessa Codaccioni pour nous parler de son livre « Comment les États répriment ». C'était en public le 23 septembre dernier à la librairie Terra Nova.
Merci beaucoup déjà. Moi j'avais une question qui va un peu au-delà de la présomption de culpabilité, la présomption d'innocence. Du coup j'ai fait mes recherches de mémoire sur la répression sur l'A69. Merci, ouais. Vos livres ont beaucoup aidé, merci beaucoup. Et du coup, Un truc que j'ai vu dans certains procès, c'était l'inversion de la charge de la preuve, donc le fait que c'était aux militants de prouver que c'était pas lui qui avait fait ou que c'était pas lui qui était en tort, alors que normalement c'est à la justice de prouver que la personne est en tort. Et du coup, bon, quand j'en ai parlé un peu aux avocates et tout, elles me disaient « ah mais je suis pas sûre », donc j'en ai pas vraiment parlé dans mes travaux, mais je voulais savoir, si, peut-être vous avez vu plus de procès que moi, si vous aviez vu ce genre de truc c'est aux militants de prouver qu'il a pas fait, et là en l'occurrence bah, de sortir des images pour montrer que c'était pas lui, enfin... Voilà, des choses comme ça.
Moi, j'ai pas vu ça. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur des centaines de, sur plus d'une centaine de procès, par exemple, de gilets jaunes. Alors, le problème des gilets jaunes, c'est qu'ils ont, ils avouaient tout, en fait. Donc, on est dans l'exact inverse. Enfin, ils avouaient, en tout cas, ah oui, je leur ai donné un coup de pied, oui, je les ai traités de bâtards, de salauds. Mais oui, mais ils m'avaient fait ça. Mais oui, je les ai jeté un pavé, mais ils m'avaient gazé juste avant. Donc là, il n'y a pas du tout de question de preuve parce qu'ils se sont auto-incriminés. Beaucoup de gilets jaunes se sont auto-incriminés. Et ça montre qu'il y a, et pas que les gilets jaunes, dans des procès très récents de militantes et de militants, il y a des formes d'auto-incrimination, alors que pourtant on dit qu'il ne faut rien dire en garde à vue. On a énormément de problèmes avec les paroles qui sont données en garde à vue, qui ensuite sont très difficilement enlevables. Ça, c'est la première chose. Et puis, moi, ce que je vous disais, c'était pas ils doivent prouver qu'ils ne l'ont pas fait, etc. C'est qu'ils doivent prouver qu'ils n'y ont pas pensé.
Là, dans les cas auxquels je pense, c'était vraiment... Il n'y avait pas forcément d'images. Et du coup, c'était les avocates de la lutte qui ont cherché partout les images pour amener ça au dossier. Et en fait, sans ça, on était quasiment sûr que les copains allaient être...
Bien sûr. Mais là, il y a un vrai enjeu, je pense, dans ce que vous dites. Je ne sais pas si c'était que des histoires de vidéos. Mais moi, ce que j'ai vu sur les 450 gardes à vue de gilets jaunes, c'est que la circulaire du procureur de la République ou de la chancellerie, je ne sais plus, disait vous allez les arrêter, vous allez les inculper pour participation à un groupement en vue d'eux, mais n'utilisez pas la vidéosurveillance, ça ne sert à rien. Et en fait, c'est trop coûteux, ils n'ont pas les moyens. Et en fait, il y a des militantes et des militants qui étaient moins auto dans l'incrimination qui disaient ben, montrez-moi les vidéos, j'attends. Et des vidéos, il n'y en avait pas. Donc, au moment du procès, ils avaient beaucoup plus de chances de... Mais ils disaient, montrez-moi la vidéo. Ah non, on n'a pas. Ben alors, prouvez-le. C'était plus ça que j'ai vu, moi, par rapport à ces histoires de vidéosurveillance. Ils n'avaient pas les moyens d'aller, eux, rechercher des vidéos, mais ils demandaient, OK, alors montrez-moi, prouvez-moi. Donc, mais je vous le dis, entre avouer et pas avouer, les différences sont énormes. Et je le dis toujours quand je fais une conférence, s'il n'y a rien contre vous, et que vous niez jusqu'au bout, en général, selon certaines incriminations, ça peut passer, bon, notamment sur la participation, parce qu'il n'y a rien, en fait. Après, c'est des choses plus graves, anti-terro, là, c'est plus compliqué.
Du coup, pour répondre peut-être à cette histoire de la charge de la preuve, ouais. Notamment sur le dossier de la 69, que je connais un petit peu, je ne suis pas tout à fait d'accord, la règle, elle reste la même, mais elle est un peu déguisée, enfin, on essaye de la détourner, c'est-à-dire qu'effectivement c'est toujours le procureur qui doit apporter un dossier étayé par une enquête menée par des enquêteurs, et du coup en fait la question de la charge de la preuve elle se déporte un petit peu sur quelle est la parole qu'on accorde à un enquêteur. Et du coup on a des PV alors de contexte par exemple, donc c'est des PV qui sont rédigés avant l'infraction et qui sont versés dans une procédure qui viennent étayer une probabilité, une intention, etc. Même la participation à une sorte de groupe, donc les militants de la 69 ou les zadistes, ou etc. Et puis ensuite, on a des PV d'interpellation qui vont être très lacunaires, par exemple, sur la violence de l'interpellation, mais qui vont venir matérialiser le fait que la personne, elle était présente. Et alors, par contre, du coup, on a la parole des militants qu'on peut citer comme témoins et la parole des policiers qui est inscrite sur un PV de police.
Alors justement, il y a un gros, gros truc moi, qui me semble très important aussi, c'est la parole policière dans la répression aujourd'hui, des manifestations notamment. Sur la question de la participation à un groupement, vous le dites, hein, on a l'impression qu'ils sont tous rédigés pareil. Le mec, alors dis-moi, je disais le mec, je disais c'est quoi ce truc ? Le mise en cause, d'accord ? Le mise en cause était garde près des Champs-Élysées, là où des affrontements ont lieu, bon voilà, donc ils recontextualisent, etc. Mais ensuite, il y a tout le problème dont on n'a pas encore parlé, qui est les outrages, la rébellion et les violences à dépositaires de l'autorité publique. Où là, la parole du policier fait quasiment toujours foi. Et les condamnations sont vraiment quasi systématiques dans le cas où le policier vous incrimine. Alors, là aussi, il ne faut pas avouer, quoi. Il ne faut pas avouer à moitié. Soit vous dites « j'ai rien fait parce qu'il n'y a pas de preuve », soit bon. Mais si vous dites « oui, effectivement, je l'ai traité de bâtard », bon, l'outrage, après, ça va être compliqué de le faire tomber, quoi. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que les policiers se déplacent en réalité assez peu au tribunal. Ils sont représentés par leurs avocats. Et par contre, le jour où ils se déplacent au tribunal, vous êtes sûr que vous avez perdu.
Après, des outrages en comparution immédiate, il y en a vraiment tout le temps. Les gens disent qu'ils n'ont rien fait, ils sont condamnés systématiquement. Ouais. Jamais vu. C'est en théorie, la parole policière n'est pas censée valoir plus que la parole de n'importe qui. Mais alors, en théorie, non, pas devant la justice, ouais, non. Mais alors là, au tribunal, c'est vrai que ça n'a. Enfin...
Les violences anti-flics, donc les violences contre les forces de l'ordre, elles se sont multipliées. Il y a eu une explosion de ça depuis les années 80. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a donné la possibilité aux policiers de porter plainte. Et donc de se faire un peu d'argent aussi. C'est une source de revenus, hein, il faut pas se mentir. Et donc ça s'est vraiment multiplié, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose, c'est que c'est l'un des délits, ce sont les délits les plus systématiquement réprimés. C'est-à-dire que la réponse pénale, elle est quasi systématique. Hein, ça veut dire que vous sortez pas de garde à vue. Voilà. Dans d'autres délits, vous pouvez sortir de garde à vue ou d'inculpation. Là, non. Donc c'est systématique, il y a une réponse pénale, et puis en plus les condamnations sont vraiment très 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 systématiques, en faveur du policier.
Bonsoir. Merci pour le partage. Vous avez proposé d'aborder peut-être les répressions faites par la psychiatrie. Moi ça m'intéressait d'entendre quelques mots là-dessus.
Donc ce qui m'intéressait au départ, c'était la psychiatrisation de l'activité politique. Normalement, les militantes et les militants ne sont pas soumis à des examens psychiatriques et ne sont pas pathologisés ou psychologisés. On dit qu'ils sont fous, qu'ils sont hystériques, etc., mais ça s'arrête là. Sauf que ce qu'on observe dans les années 60 et 70, c'est qu'il y a une augmentation de la pathologisation et de la psychiatrisation des luttes. Je m'explique. La Cour de sûreté de l'État en France, dont je vous ai parlé entre 63 et 81, c'est 3600 personnes inculpées, 3600 personnes qui ont passé un examen psychiatrique ou psychologique. Des manifestants de mai 68, des Mao, des Corses, des Basques, des Bretons, des membres d'Action Directe. Je peux vous donner, j'ai tous les examens psychiatriques des membres d'Action Directe, du FLNC, de tout ce que vous voulez. Comment est-ce possible ? C'est qu'on va considérer, on est déjà dans ce mouvement, vous voyez, à peu près de dépolitisation aussi, où on va considérer que finalement, c'est des criminels d'assises comme les autres et qu'ils doivent subir un examen psychiatrique. Et ça donne quoi ? Je vais le dire de manière très caricaturale. Hein. C'est le militant corse, il a posé une bombe parce qu'il a un problème d'attachement à la terre qui vient d'un problème d'attachement à sa mère. Qu'est-ce qu'il y a de plus dépolitisant que ça ? Que dire qu'un indépendantiste, il a posé une bombe parce qu'il a un problème d'attachement à sa mère. Il n'y a rien de plus dépolitisant que ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'on observe des formes de psychiatrisation extrême, notamment aux États-Unis, où il a été montré que les Noirs aux États-Unis, au moment du mouvement des droits civiques, par exemple, sont de plus en plus considérés et traités comme des schizophrènes. Donc, il y a une schizophrénéisation des Noirs aux États-Unis, avec une augmentation considérable des Noirs qui sont traités pour schizophrénie. On leur donne des médicaments. Il y a tout un tas de pubs qui assimilent les Noirs à la schizophrénie, etc. Et avec une psychiatrisation de tous les Noirs en lutte. Par exemple, hein, le FBI il va considérer que Malcolm X est psychotique et tout un tas de paranoïa. Enfin, la grille de lecture psychologisante de l'activisme va devenir véritablement dominante. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai observé véritablement et qui me semble évidemment très néfaste puisque totalement dépolitisant, sans parler des effets en termes de d'internement, etc. Avec cette idée que il faut comprendre cette idée-là quand ça s'applique au militantisme, c'est que l'idée de départ est de dire ce qu'ils ont fait, ça peut pas être rationnel, puisqu'on dit que c'est pas politique de toute façon. Ça peut pas être rationnel. Si c'est pas rationnel, c'est irrationnel. Donc c'est fou. Donc c'est des folles et des fous. La question de la folie dans le cadre du militantisme est, à mon avis, centrale. Parce que ça irrationalise, et donc ça stigmatise, et donc ça illégitime. Vous allez vous solidariser avec des fous et des folles ? Entre guillemets, bien évidemment. Parce qu'il n'y a pas de fous et de folles. Mais voilà. Donc c'est et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de débats aussi autour de plein d'autres choses, comme la légitime défense des femmes battues, où il faudrait que pour qu'elles soient reconnues, les femmes soient battus, soit expertisés par des psychiatres, des psychologues, et qu'on leur reconnaisse des stress et des syndromes, etc. Et il y a beaucoup de féministes qui disent « Attention, c'est peut-être pas la bonne manière d'être psychiatrisée à ce point-là pour être reconnue comme juste s'étant défendue. » Enfin, là, je fais une énorme digression, mais la question de la psychiatrisation des actes et des passages à l'acte peut être très problématique, même si parfois, évidemment, elle peut bénéficier à certains accusés. Il ne faut pas nier ça. Il faut regarder les cibles toujours de cette psychiatrisation. Et qu'est-ce que ça dit ?
Je pense que dans certains cas, elle peut aussi leur nuire. En comparution immédiate, par exemple, dans certains cas, les prévenus passent un genre d'expertise psychiatrique. Quand cette expertise psychiatrique déclare que le discernement au moment des faits a été altéré, en théorie, la peine encourue baisse d'un tiers. Mais dans les faits, en fait, ça dresse très rapidement le portrait d'une personne dangereuse qu'il faut peut-être neutraliser en l'envoyant en prison plus longtemps. Enfin...
D'où les dangers, là encore, de la psychiatrisation. Alors attendez, j'ai pas fini, parce que on vous fait passer pour fou, ça c'est la première chose, c'est ce que je viens de décrire, mais il y a aussi, on vous rend fou. Et ça, c'est la torture psychologique qui a été pratiquée notamment contre les membres de la RAF, fraction armée rouge armée, en Allemagne, où on les a isolés dans des cellules blanches, totalement blanches, allumées de jour comme de nuit, on est dans les années 70, hein, de jour comme de nuit, insonorisées, à l'isolement total, sans voir personne, ils sont littéralement devenus folles et fous. Il faut lire les écrivains de l'activiste et intellectuelle et journaliste Ulrike Manhoef, où elle décrit les conditions de son isolement, la torture psychologique que c'est, pour voir ce que ça produit sur les individus. Soit on vous fait passer pour fous, soit on vous rend fous. Avec des techniques de torture psychologique qui, évidemment, se sont archi-développées à partir des années 60 aux États-Unis, parce que la CIA a financé massivement, à des hauteurs de millions et de millions, des programmes de torture psychologique pour savoir comment torturer les gens avec deux types de torture, la torture psychologique, la torture blanche, et puis une autre forme de torture qu'on appelle la torture auto-infligée, où on vous dit que c'est parce que c'est vous qui n'êtes pas assez obéissant et c'est vous qui causez votre propre douleur. Par exemple, quand on vous attache pendant 24 heures pendu comme ça, on vous dit « Est-ce que tu veux bien parler ?» Non, ah ben, c'est vous qui vous infligez cette souffrance. Donc en plus, vous êtes responsable de votre propre mort. L'idée étant de faire régresser l'individu à un état antérieur et d'enfance. Enfin, c'est un truc totalement délirant, mais qui se fait, évidemment, et qui s'est beaucoup pratiqué, vous le savez, après le 11 septembre, notamment dans les prisons d'Abu Ghraib, Bagram, plus les viols et les tortures physiques, bien évidemment.
Sans parler de choses aussi extrêmes, le simple isolement en prison qui existe tout à fait en
évidemment.
France. Évidemment. Et les prisons de haute sécurité qu'ils sont en train de récréer, qui avaient été supprimées par Mitterrand à son arrivée au pouvoir en 81, qu'ils sont en train de recréer en ce moment.
Ouais, exactement.
Ils en ont réouvert une récemment.
Ouais. Donc là, c'est vraiment ces deux mouvements qui sont intéressants à travailler ensemble. Faire passer pour fou, rendre fou. Folle.
Merci beaucoup Vanessa, merci beaucoup.
Merci
Marie.
Infiniment d'être venue. Merci.